Ben. Dans ce journal, on vous donne les informations sur cette alerte à la bombe ce matin à l'aéroport de Huaïné. On vous parle aussi de prix de grève, de grève à l'OPT, de bagarre et du triathlon sur Moréa. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
L'actualité ce matin, c'est d'abord cette alerte à la bombe à Huaïné.
Blague de très mauvais goût ou risque réel. Ce jeudi matin, plusieurs personnes ont témoigné d'une alerte à l'aéroport. Information confirmée par le Haut-Saria qui a indiqué que l'aérodrome avait été évacué et que des moyens de déminage étaient engagés par les forces de l'ordre. D'après le Tavana, Marcelin Lissant, l'alerte est partie après la réception d'un mail menaçant évoquant la présence d'une voiture piégée. Cité par le maire comme destinataire du mail, Air Tahiti n'a pas souhaité confirmer cette information. Deux avions ont été isolés à bonne distance sur le tarmac dans la matinée. L'un des deux a ensuite pu décoller en direction de Raiatea vers 11h20. L'autre appareil est toujours au sol, le temps d'écarter tous les doutes. Vous pouvez suivre les infos en direct de la rédaction sur notre site internet.
Mais carnet noir, nous avons appris ce décès ce matin.
Il était le dernier survivant du bataillon du Pacifique. Le Tahitien Harry Wong Kim est décédé la nuit dernière en Normandie à 99 ans. Il s'était engagé à 16 ans en prenant le nom de son frère pour quitter la Polynésie en 1940 et allait combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux fois blessé en Libye et en Provence, il vivait en métropole depuis la fin de la guerre. Le dernier de ses braves avait été décoré de la Légion d'honneur sur le tard en 2020.
La grève à l'OPT est lancée.
Oui, la trêve est finie. CSIP, CSTPFO et OOE Toorerima ont déclenché cette nuit la grève dans les trois entités, Holding, Onati et Farerata. Le préavis de grève de l'intersyndicale avait été suspendu, rappelez-vous, le 28 septembre, après deux jours de négociations. Depuis, certains syndicats avaient signé certaines des conventions collectives, solidifiant ainsi la position juridique de la direction, qui estimait alors avoir sauvé l'essentiel pour les salariés. Mais hier matin, une réunion pour discuter du protocole proposé par la direction a tourné court, tout en démontrant à nouveau une certaine division, cette fois dans les rangs de la CSIP. Toujours est-il que les syndicats ne digèrent pas le rabotage des avantages aux salariés qui devraient aller au-delà des 147 millions de francs d'économies prévues par an. Difficile de dire quel sera l'impact réel de la grève sur les services aux usagers, car les syndicats ne pèsent pas tous d'un poids égal dans les différentes entités et leurs services.
Et le rapport d'orientation budgétaire était examiné ce matin.
Oui, c'est une tâche qui revient à la commission de l'économie, et ce rapport fait déjà réagir. Nous, oui, l'oreille, ancien ministre et élu de l'opposition, est resté sur sa faim après sa lecture du document.
Nous, ce qu'on sait, c'est que la taxe sociale a été supprimée et donc ça va générer un besoin de 9 milliards à compenser et aucune action précise nous est indiquée en matière de réforme de la PSG. Finalement, le programme du Tavini qui avait été évoqué pendant la campagne, qui faisait plus de 40 pages, maintenant on n'a plus du tout la trace.
Sur la section investissement, dont le montant est fixé à 30 milliards pour 2024, l'ancien ministre doute de la capacité du gouvernement à réellement consommer ses crédits. Il comptait bien demander des informations ce matin en commission et anticipait que la séquence risquait d'être longue. Nuyo Loreille prend aussi l'exemple du tourisme, secteur dans lequel l'objectif de 600 000 visiteurs dans 10 ans est assumé. Mais dit-il, on voit qu'on est loin du compte, même pour passer la barre des 200 000 visiteurs. Et selon lui, c'est un peu comme ça sur tous les sujets.
Et l'écart des prix entre Polynésie et métropole se réduit.
Oui, l'Institut de la statistique de Polynésie publie les résultats de son enquête de comparaison spatiale des prix qui met en regard les paniers moyens de consommation au Fénois et en métropole. De 39% en 2016, cet écart est descendu à 31% en 2022. On écoute Nadine Jourdan, directrice de l'ISPF.
On observe un écart de prix de 31%, donc un surcoût de prix en Polynésie française par rapport à la France hexagonale. Par rapport à 2016, la précédente mesure, on observe que cet écart s'est réduit de 8 points. Néanmoins, 3 points dans cette réduction de l'écart proviennent des prix des carburants qui aujourd'hui sont moins chers en Polynésie.
Un Polynésien consacre 25% de son budget à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées, alors que ces produits ne représentent que 15% du budget d'un habitant de la métropole. Les surcoûts les plus importants en Polynésie concernent d'abord l'alcool et le tabac, qui sont 83% plus chers, puis l'hôtellerie et la restauration, 75% plus chers, et les produits alimentaires et boissons sans alcool sont 45%. Plus cher ici qu'en France. Dans cette catégorie, ce sont les produits laitiers et la charcuterie pour lesquels l'écart des prix est le plus marqué. Seules exceptions, le poisson frais et les viandes importées de Nouvelle-Zélande sont moins chères aux Fénois que le poisson et la viande proposés aux consommateurs métropolitains.
Et on vous parle désormais de ces bagarres répétitions au collège de Paya.
Stop, c'est le message que souhaite faire passer l'association des parents d'élèves après les deux bagarres qui ont éclaté aux abords et dans l'enceinte de l'établissement hier. Une situation très fréquente selon le personnel qui note depuis plusieurs années déjà une recrudescence des violences. Alors pour endiguer ce phénomène, l'établissement travaille depuis le début de l'année conjointement avec la commune et sa brigade de police. Un partenariat nécessaire mais qui ne semble pas si efficace, comme en témoigne le nombre d'exclus sur les 9 semaines de cours depuis la rentrée. 33 exclusions, dont 20 pour violences verbales et physiques. La PE a donc proposé son aide au principal. Elle parle notamment d'actions de prévention dans les classes, mais aussi de la mise en place d'une brigade des parents qui interviendrait ponctuellement pour venir en aide aux surveillants qui ne sont que 4 pour 654 collégiens. Moéa Teipouari est trésorière de la PE.
On veut faire de la prévention et faire en sorte que les enfants ils se battent plus. Si notre présence, ça peut faire ça, bon, on veut bien tester. Et pourquoi pas, tu vois. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. C'est qu'une proposition, il faut tester pour savoir si ça marche. Par contre, on ne sait pas si on a le droit d'être là, d'être dans l'établissement.
Selon l'association, le principal de l'établissement ne serait pas contre ce coup de main et aurait d'ailleurs déjà envoyé un mail à la DG2E pour savoir ce qu'il est possible d'envisager ou pas. Le recrutement d'un cinquième surveillant serait aussi à l'étude, mais les parents d'élèves espèrent plutôt voir leur nombre doubler. Au sein de l'établissement, on parle surtout d'un travail de fond qui devrait être mené par les parents, qui serait, je cite, « trop démissionnaire ».
On note ce rendez-vous ce soir à l'université.
Les jardins urbains collectifs en tant que réponse au problème d'approvisionnement en produits frais, c'est le thème de la soutenance d'Anthony Tchekemian. Ce maître de conférences en urbanisme et géographie la présente ce soir à 20h dans l'auditorium du nouveau bâtiment recherche. Ce thème, il l'a choisi en partant du constat que la malbouffe est présente partout, en Polynésie comme dans le reste du monde. Pour travailler, il s'est rendu dans différents jardins collectifs de quartiers prioritaires et il y a vu de belles choses, notamment de la part des jeunes.
Il est vraiment très positif puisque à ces jardins se sont greffés aussi d'autres associations, des écoles qui sont venues. Il y a différentes méthodes, la permaculture qui sont apprises déjà aux plus petits et on sait que ces plus petits vont après transmettre auprès de leurs parents ces bons gestes.
Anthony Tchekemian, qui est conscient des limites imposées par la disponibilité du foncier en zone urbaine, il recommande davantage d'aide et de formation pour les habitants les plus démunis afin de leur expliquer l'importance de l'équilibre alimentaire. Il déplore toutefois que le pays ne parvienne pas à réglementer la production et l'importation de produits trop gras et trop sucrés. Différentes idées qu'il soutient donc ce soir à 20h à l'université, ce qui lui permettra ensuite d'être habilité à diriger des recherches.
Et la 8e édition du triathlon Xterra de Morea, c'est ce week-end.
Des épreuves étalées sur 2 jours où les meilleurs mondiaux de la spécialité seront sur la ligne de départ samedi, avec des épreuves de natation sur 1,5 km, un parcours VTT de 34 km et 10 km de trail pour finir. Jean-Michel Monod, organisateur de l'événement, nous en dit plus.
On nage dans la baie d'Opunohu sur 1,5 km. Ensuite, il chevauche le VTT qui fera au total 34 km au milieu des champs d'ananas, dans des grandes montées avec la boue. Ça va être spectaculaire. Donc, ils vont passer 3 fois devant le public. Au niveau du Fare Natura, du Criob. Ils déposent le vélo et ils repartent pour 10 km qui les font partir donc de la baie d'Opunohu jusqu'au Belvédère en passant bien sûr par la montagne et non pas par la route pour redescendre par le sentier des ancêtres et revenir à l'arrivée au Fare Natura.
L'organisateur qui parle donc d'un parcours exceptionnel mais aussi d'un plateau d'engagés de très haut niveau, écoutez.
C'est vraiment un sport magnifique à voir avec cette année un plateau comme jamais on a eu. On a ce qui se fait de mieux dans le monde du triathlon nature actuellement. On a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 chez les hommes, ce qui est exceptionnel. Et on a la numéro 1 mondiale qui est une Française également. Donc on est très fiers de les recevoir chez nous.
Et parmi les participants, Arthur Serrière, champion du monde cette année, pour qui c'est toujours un plaisir de participer à cette épreuve, même si normalement à cette période de l'année, il est en récupération.
En fin de saison, comme ça, comme entre guillemets dernière course de la saison, c'est incroyable. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui rêvent toute une vie de pouvoir aller à Tahiti. Nous, on a cette chance de pouvoir le faire dans des conditions exceptionnelles et puis aussi dans un état d'esprit un peu différent. C'est-à-dire que nous, on ne va pas venir ici en tant que touriste. On est vraiment intégré par la population locale. On peut vraiment profiter des gens comme ils sont et c'est des événements, on s'en souvient toute notre vie et c'est vraiment une course à part entière et vraiment inégalable nulle part.
Et à noter que des épreuves de triathlon court sont prévues dimanche avec à partir de 12 ans une épreuve de natation de 300 mètres, un parcours VTT de 6,5 km et un trail de 3,5 km. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Et la finale, cette grande finale de cette Coupe du monde de rugby à 15 2023 approche à grands pas. On est presque à 2 semaines de cette finale, mais avant ça, bien sûr, place aux demi-finales. Je suis avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de Rugby. Yorana Gilles.
Et Yolana Kevin, Yolana tout le monde.
Comment tu vas aujourd'hui?
Eh bien, écoute, ça va, on va assister à deux grands matchs, hein, demain matin et samedi matin. Voilà, donc les demi-finales entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Et l'autre demi, Angleterre-Afrique du Sud.
Alors, on a fait un point hier hein, sur l'Argentine-Nouvelle-Zélande avec, bien sûr, les quarts de finale. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Cette affiche, deuxième affiche de demi-finale qui va se dérouler ce samedi. Alors, avant ça, il faut quand même noter le parcours un petit peu des Anglais pour commencer avec ce quart de finale. Bien maîtrisé tout de même, mais assez serré face aux Fidjiens qui avaient lieu ce 15 octobre, 30 à 24 pour l'Angleterre.
Oui, bah écoute, les Anglais sont toujours là, c'est les seuls qui représentent l'hémisphère nord. Bon, effectivement, c'était peut-être une poule un peu plus simple, mais les Anglais vont devoir relever le défi hein, face à ces Springboks qu'on connaît. Hein, il va falloir que physiquement, ils soient présents, donc... Voilà, les Anglais, ils sont là. Et bien, on peut espérer aussi un exploit, mais ça va être très compliqué. On connaît la puissance de l'Afrique du Sud.
Ah ben, on a pu la voir hein, sur ce match de l'Afrique du Sud contre la France, victoire de l'Afrique du Sud 29 à 28. Seulement un point de différence. Tu penses quand même que les Anglais peuvent le faire ou non, c'est le grand favori l'Afrique du Sud?
Non, le grand favori est l'Afrique du Sud, bien sûr. Mais bon, ils sont prévenus, les Anglais, ça va être costaud. On sait, les Springboks, ils aiment dominer leur adversaire. Alors, ils sont intraitables, hein, donc d'autant plus qu'ils reconduisent la même équipe qui a battu l'équipe de France. Donc voilà, on va s'attendre à un gros match, mais je pense que si l'Afrique du Sud et les Springboks mettent en place leur puissance et tout, ils vont gagner largement ce match.